Chapitre 5. Avec les matriarches. Se tenant le plus près possible du petit feu qui brûlait au milieu de la tente, mais frissonnant toujours, Egwene versa l'eau chaude d'une grande bouilloire dans une cuvette en céramique rayée de bleu. Elle avait abaissé les cloisons latérales de la tente, mais le froid montait aussi du sol, malgré les tapis, et toute la chaleur du feu semblait s'évader par le trou d'évacuation de la fumée ménagé dans le toit de toile. Du coup, il ne restait quasiment que la puanteur des bouses de vache. Manquant claquer des dents, Egwene s'avisa que l'eau refroidissait déjà, car il n'en montait presque plus de vapeur. S'unissant au Saïdar, elle recourut à un tissage de feu pour réchauffer l'eau. Amis ou Beyr auraient probablement fait leurs ablutions à l'eau froide, sauf qu'en réalité, elle prenait presque toujours des bains de vapeur.
« Je suis moins résistante qu'elle, voilà tout. Après tout, je ne suis pas née dans le désert. » Pourquoi devrais-je me geler et me laver à l'eau froide si ça ne me dit rien ? »
Pourtant, la jeune femme se sentit encore vaguement coupable pendant qu'elle frottait un morceau de tissu sur le pain de savon parfumé à la lavande qu'elle avait acheté à Kadéré. Les matriarches ne lui avaient jamais rien imposé sur ce sujet. Pourtant, elle avait l'impression de tricher. Se séparer de la source authentique lui arracha un soupir plein de regrets. Malgré le froid, elle ricana de sa propre stupidité. L'extase d'être remplie de pouvoir, ce flot de vitalité et de lucidité qui l'emportait au-delà d'elle-même, était sa plus grande faiblesse. Plus on drainait de Saïdar, et plus on aspirait à en drainer. Sans l'autodiscipline requise, on finissait par en puiser trop par rapport à ses compétences. Alors c'était soit la mort, soit une manière de se calmer soi-même. Rien qui fût si risible que ça, tout bien pesé.
« C'est un de tes plus grands défauts, »
se sermonna-t-elle.
« Tu veux toujours en faire plus que ce qui paraît accessible. Ma fille... Tu devrais te laver à l'eau froide, ça te ferait les pieds. »
Il y avait tant de choses à apprendre. Tellement, en vérité, qu'une vie semblait trop courte pour qu'on ait le temps de tout assimiler. Matriarche comme Aes Sedai, ses formatrices se montraient toujours si prudentes. Comment se retenir, alors qu'elle avait conscience d'être en avance par rapport à elle sur une multitude de points ?
« Je peux faire bien plus de choses qu'elle le croit. »
Un courant d'air frappa Egwene comme la lanière d'un fouet et fit volter la fumée dans toute la tente.
« Si vous voulez bien,
commença une voix de femme. Egwene couina de désagrément avant de pouvoir lâcher d'une voix étranglée.
« Le rabat ! Ferme-le ! »
Elle enroula les bras autour de son torse pour se réchauffer.
« Entre, sors, mais ferme-le ! »
Tous ses efforts pour avoir un peu chaud réduits à néant. La femme en longue tunique blanche entra sous la tente à genoux, puis elle laissa retomber le rabat. Les yeux baissés, les mains humblement croisées, elle réagit exactement comme si Egwene l'avait frappée au lieu de lui crier après.
« Si vous voulez bien, »
dit-elle,
« la matriarche Amis m'envoie vous inviter à la rejoindre dans le bain de vapeur. »
Regrettant de ne pas pouvoir se tenir directement au-dessus du feu, Egwene marmonna entre ses dents.
« Que la lumière brûle Beyr et son fichu entêtement !»
Sans la rigidité de la matriarche aux cheveux blancs, elles auraient toutes pu être dans des chambres, au lieu de se geler sous les tentes à la lisière de la cité.
« J'aurai une cheminée à ma disposition, et une porte pour me protéger du froid. »
À cet instant précis, elle l'aurait parié, Rand était bien tranquille, sans qu'on vienne le déranger à tout bout de champ.
Maudit Rand, dragon, Altor! Tu claques des doigts et des promises à court comme une nuée de servante. Je suis sûr qu'elles t'ont déniché un vrai lit, pas une vulgaire paillasse.
Et bien sûr, Messire Dragon devait prendre un bain chaud tous les soirs.
Les promises lui apportent sûrement des seaux d'eau chaude dans sa chambre. Et elles lui ont à coup sûr dégoté une superbe baignoire de cuivre.
Amis et Melaine, oui, même elle, s'était montré favorable à la proposition d'Egwene. Mais Beyr avait tapé du poing, et elle s'était soumise comme des Gaishines. Avec les changements qu'apportait Rand, Beyr s'accrochait aux traditions, et c'était compréhensible. Mais pourquoi n'avoir pas fait une exception sur ce sujet? Bien entendu, Egwene n'avait pas contesté cette décision. Au matriarche, elle avait promis d'oublier qu'elle était une Aes Sedai. Rien de bien déchirant puisqu'elle n'en était pas une, et d'obéir sans jamais discuter. Ça, en revanche, c'était plus compliqué. Partie de la Tour Blanche depuis un bon moment, Egwene avait en quelque sorte recouvré son indépendance. Mais Amis avait vite douché ses ardeurs. Même quand on savait ce qu'on faisait, avait-elle dit, s'aventurer dans le monde des rêves restait très dangereux. Quand on ne le savait pas, c'était carrément mortel. Si elle ne se montrait pas docile en étant réveillée, comment savoir si elle le serait en rêve? Dans ce cas, les matriarches refusaient de prendre la responsabilité de la former. Du coup, Egwene acceptait toutes les corvées, comme à Vienda, et elle se laissait infliger des punitions avec toute la bonne grâce dont elle était capable. En d'autres termes, elle sautait dès qu'Amis, Melaine ou Beyr disaient « grenouille ». une façon de parler, bien sûr, car aucune des trois matriarches n'avait jamais vu l'ombre d'une grenouille.
« Ce soir, elles doivent seulement vouloir que je leur serve une infusion. »
« Non, impossible. » C'était le tour d'Avienda. Un moment, Egwene songea à enfiler des bas, mais elle se contenta de remettre ses chaussures. De très solides godillots, adaptés au désert, mais qui lui faisaient quand même regretter les jolis modèles en velours qu'elle portait à Théar.
« Comment te nommes-tu »
demanda-t-elle à la Gaï Shine, histoire de se montrer sociable.
« Cowind, »
répondit docilement la femme en blanc. Egwene soupira de frustration. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à sympathiser avec les Gaï Shine. Bien sûr, elle n'avait aucune expérience des domestiques. Cela dit, il ne s'agissait pas vraiment de serviteurs.
« Tu étais une promise ?»
La façon dont Cowind leva brièvement la tête, ses yeux bleus brillants, indiqua à Egwene qu'elle avait mis dans le mille.
« Je suis une Gaï Shine. Le passé et l'avenir ne sont pas le présent, qui est le seul à exister. Quels sont ton clan et ta tribu ?»
D'habitude, il n'y avait pas besoin d'interroger les Aiel pour le savoir, même les Gaï Shine.
« Je sers la matriarche Melaine du clan Djirad de la tribu gauchienne. »
Alors qu'elle essayait de choisir entre deux capes, une en laine marron et l'autre en soie bleue chaudement doublée, les deux achetées à Kadere qui avait organisé une grande braderie afin de vider ses chariots pour y embarquer le chargement de Moiraine, Egwene s'interrompit un moment pour dévisager la femme, le front plissé. Ce n'était pas la bonne réponse. Mais on disait qu'une sorte de sidération frappait parfois les Gaï Shine. Au terme de leur un an et un jour de service, ils refusaient purement et simplement de retirer leur robe blanche.
« Quand en auras-tu terminé ?»
demanda Egwene.
« Je suis une Gaï Shine. J'ai bien compris. Mais quand pourras-tu retourner dans ton clan et dans ta forteresse ?»« Je suis une Gaï Shine. »
répéta Cowind, les yeux baissés sur le sol.
« Si mes réponses ne vous conviennent pas, punissez-moi. Mais je ne peux pas en donner d'autres. Ne sois pas ridicule !»
s'emporta Egwene.
« Et ne reste pas à genoux comme ça. Tu n'es pas un crapaud !»
Cowind obéit immédiatement, s'asseyant sur les talons pour attendre de nouveaux ordres. Egwene se demanda si elle n'avait pas rêvé un peu plus tôt, quand elle avait vu lever la tête. Eh bien, à l'évidence, cette Gaï Shine s'était arrangée à sa manière avec la sidération. Une solution stupide. Mais tout ce qu'on pourrait lui dire n'y changerait rien. De plus, se souvint Egwene, elle était censée aller rejoindre les matriarches et bavarder avec une Gaï Shine la retardait. Se rappelant le courant d'air froid un peu plus tôt, la jeune femme s'interrogea de nouveau au sujet des capes. Cette bourrasque avait incité les deux grandes fleurs blanches à se refermer à demi dans leur vase. Elle provenait d'un végétal appelé ségade, une plante du désert dépourvue de feuilles et couverte d'épines. Le matin même, elle avait surpris Avienda avec ses fleurs qu'elle regardait comme si elles allaient la mordre. Apercevant Egwene, la Yael avait sursauté, puis tendu l'esquisse de bouquet à son amie en affirmant l'avoir cueillie pour elle. Un moyen de cacher qu'elle aimait les fleurs, bien entendu, car elle restait une promise dans l'âme. Encore que, de temps en temps, on voyait des fards d'Araismaï avec une fleur dans les cheveux ou la boutonnière.
« Egwene Alvéré, tu fais tout pour différer le moment d'y aller. Cesse de te comporter comme une idiote. Sinon tu finiras par concurrencer Cowind. Je te suis, Gaï Shine. »
Egwene eut à peine le temps de s'envelopper dans la cape de laine. Déjà hors de la tente, Cowind tenait le rabat ouvert, pour elle et pour le vent glacial. À la lumière de la lune gibbeuse et des étoiles, Egwene suivit son guide dans le camp des matriarches dressé à moins de 100 pas de l'endroit où une des rues de Ruidéane, inachevée comme tout le reste, s'arrêtait brusquement pour laisser la place à un sol craquelé semé de cailloux. Alors que la cité, à cette heure, semblait une vaste étendue de falaises et de crevasses, Egwene commença à se faufiler entre les tentes basses dont tous les panneaux latéraux étaient rabattus. Une odeur de fumée et des arômes de cuisson flottaient dans l'air en un mélange harmonieux. Presque tous les jours, les autres matriarches venaient ici pour des réunions, mais elles dormaient avec leurs clans respectifs. Plusieurs avaient même élu domicile à Ruidéane. Hélas, Beyr campait sur sa position. Pas question d'approcher davantage de la ville. Et si Rand n'avait pas été là, elle aurait probablement insisté pour s'installer dans les montagnes. Serrant les pans de la cape sur son torse, Egwene avança aussi vite que c'était possible, alors que des vrilles glacées de végétaux venaient lui fouetter les jambes pratiquement à chaque pas. Pour garder l'avance qui convenait à un guide, Cowind avait dû relever jusqu'à ses genoux l'ourlet de sa robe blanche. Bien entendu, Egwene n'avait absolument pas besoin qu'on lui montre le chemin. Mais si elle n'avait pas joué le jeu, la Gaï Shine aurait pu en être humiliée, voire se sentir gravement offensée. Les dents serrées afin qu'elle ne claque pas, Egwene se demanda pourquoi cette fichue Cowind ne courait pas à toutes jambes. La tente bain de vapeur ressemblait à toutes les autres, n'était le trou d'évacuation de la fumée délibérément obstrué. Non loin de là, Au centre d'un cercle de pierre de la taille d'une tête humaine, un feu finissait de brûler, ses braises encore rougeoyantes. À sa chiche lumière, impossible d'identifier les étranges monticules qui s'alignaient près de l'entrée de la tente. Des vêtements de femme soigneusement pliés, songea Egwene, instruite par l'expérience. Prenant une grande inspiration qui lui glaça les poumons, la jeune femme se débarrassa de ses chaussures et de sa cape, puis bondit littéralement sous la tente. Alors qu'elle avait eu à peine le temps de frissonner avant que le rabat retombe derrière elle, la chaleur la saisit à la gorge et elle commença à transpirer d'abondance avant même d'avoir eu le temps de se réchauffer. Les trois matriarches qui lui enseignaient à marcher dans les rêves continuèrent à suer consciencieusement, leurs très longs cheveux trempés comme au sortir d'une baignade. Beyr parlait avec Mélaine, dont l'incontestable beauté, avec ses yeux verts et ses cheveux roux clairs, paraissait encore plus éclatante comparée à la peau parcheminée et aux tresses blanches de son aîné. La crinière de neige comme Beyr, mais il s'agissait peut-être d'un blond si pâle qu'il en paraissait blanc, Amys n'avait pas l'air âgée du tout. Comme Mélaine, elle était capable de canaliser le pouvoir, un don très rare parmi les matriarches. Et elle devait avoir un petit quelque chose du visage sans âge qui caractérisait les Aes Sedai. Déjà pas bien grande, Moiraine paraissait minuscule et frêle à côté de ses aïeules. Sa peau pâle couverte de sueur, les cheveux trempés et collés sur le crâne, elle conservait toute sa dignité, comme s'il était inconcevable qu'elle en fût privée, même nue comme un ver. Un état qu'elle semblait nier avec une majesté superbe de détachement. Utilisant des sortes de racloirs en bronze appelés des Staira, les matriarches se débarrassaient nonchalamment de la sueur et de la poussière récoltée pendant la journée. Elle aussi, couverte de sueur, Avienda était accroupie à côté du grand chaudron rempli de pierres chaudes enduites de suie qui trônait au milieu de la tente. Avec une paire de pinces, elle transféra une dernière pierre prélevée dans un plus petit chaudron. Puis elle versa de l'eau dans le grand, produisant ainsi un surplus de vapeur. Si celle-ci était venue à se tarir, l'ancienne guerrière se serait fait rudement tancer, dans le meilleur des cas. Et lors de la prochaine réunion sous cette tente, ce serait à Egwene de s'occuper des pierres. Pour l'heure, elle s'assit en tailleur à côté de Beyr, sur le sol nu désagréablement chaud et humide. Une fois installée, elle s'avisa qu'Avienda avait reçu la badine, très récemment à l'évidence. Quand elle s'assit à côté d'elle, la Yel, malgré tout son stoïcisme, ne put s'empêcher de grimacer de douleur. Egwene ne s'attendait pas à ça. Les matriarches imposaient une discipline de fer, pire que celle de la Tour Blanche, et ce n'était pas peu dire. Mais Avienda apprenait à canaliser avec une détermination inébranlable. Incapable de marcher dans les rêves, elle s'exerçait à devenir une matriarche avec le même acharnement qu'elle avait dû mettre à maîtriser le maniement de ses armes de promise. Après qu'elle eut avoué avoir prévenu Rand que les matriarches épiaient ses rêves, elle avait dû passer 3 jours à creuser de grands trous dans le sol aride puis à les reboucher. À la connaissance d'Egwene, c'était le seul faux pas qu'on avait pu lui reprocher jusque-là. À la moindre occasion, Amys et les deux autres vantaient à Egwene les mérites de leur autre élève, si obéissante, si dévouée et si courageuse. Même si les deux jeunes femmes étaient amies, il y avait parfois de quoi hurler de rage.
« Tu en as mis du temps à venir !»
ronchonna Beyr, tandis que la jeune femme cherchait encore une position confortable. La voix de Beyr semblait ténue et frêle comme un roseau. Mais un roseau de fer, découvrait-on quand on la connaissait un peu mieux.
« Je suis désolé !» souffla Egwene.
« Ce serait assez repentant cette fois ?»«
De l'autre côté du mur du dragon !»
reprit Beyr en continuant à se frotter avec son Staira.
« Tu es une Aes Sedai. Ici, tu es une adepte, et les adeptes ne traînent pas en chemin. Quand j'envoie chercher Avienda, ou lorsque je la charge d'une mission, elle court, même si j'ai simplement besoin d'une épingle. Prends-la donc pour modèle. Entre nous, tu aurais du mal à en trouver un meilleur. »
Empourprée jusqu'à la racine des cheveux, Egwene s'efforça de bêler comme un doux agneau.
« J'essaierai de l'imiter, Beyr. »
C'était la première fois qu'une matriarche faisait ce genre de comparaison devant les deux autres. Jetant un coup d'œil à la dérobée et à Avienda, Egwene fut surprise par son air grave et pensif. Parfois, elle aurait préféré que sa presque sœur ne soit pas un parangon de vertu.
« Cette gamine apprendra, Beyr. »
intervint Mélaine.
« Ou peut-être bien que non. De ton côté, voudrais-tu garder pour plus tard tes cours sur la ponctualité et la rapidité de réaction ?»
De 10 ou 12 ans plus vieille qu'Avienda, Mélaine parlait presque toujours comme si elle avait eu des capitules de bardane sous sa jupe. Là, elle était peut-être assise sur une pierre pointue. Dans ce cas, elle ne bougerait pas, attendant que la pierre le fasse.
Je vous le redis, Moiraine Sedai. Les Aiel sont fidèles à celui qui vient avec l'aube, pas à la Tour Blanche.
Et Gwen supposa qu'elle était censée prendre la conversation en route.
Il est possible,
fit Amys d'un ton apaisant,
que les Aiel servent de nouveau les Aes Sedai. Mais le temps n'en est pas encore venu.
Sans cesser de jouer du Staira, la matriarche dévisagea l'Aes Sedai. ce temps viendrait, et Gwen l'aurait juré, car désormais, Moiraine savait que certaines matriarches canalisaient le pouvoir. À l'avenir, les Aes Sedai sillonneraient le désert pour découvrir des jeunes filles susceptibles d'être formées, et elles tenteraient sûrement de ramener à la tour toutes les femmes comme Melaine et Beyr. Au début, Egwen avait eu peur que les matriarches souffrent tous l'impitoyable joug des Aes Sedai, connus pour expédier de force à la tour toute femme montrant la moindre aptitude à canaliser. Mais la jeune femme ne s'inquiétait plus, contrairement aux matriarches, lui semblait-il. Dans un conflit de volonté, Amys et Melaine pouvaient tenir la dragée haute à n'importe quel Aes Sedai, ainsi qu'elles le démontraient chaque jour face à Moiraine. Et Beyr, alors qu'elle ne maîtrisait pas le pouvoir, aurait sans doute pu forcer Siwan Sanche en personne à sauter à travers des cerceaux comme une lionne domptée. Pourtant, elle n'était pas la matriarche la plus autoritaire du lot. Cet honneur revenait à Sorilea, une véritable femme du clan Jarad et Charin. Pas fichue de canaliser aussi bien que la moins douée des novices, la matriarche de la forteresse Shende était capable de charger une de ses collègues d'une corvée, comme si elle était face à une Gaishine. Et nul Aiel n'aurait eu l'idée de lui désobéir. Tout bien pesé, il n'y avait aucun souci à se faire pour les matriarches.
« Je comprends que tu veuilles protéger ton pays et tes voisins, » dit Beyr. « Mais Randall Thor n'a aucunement l'intention de nous lancer dans une expédition punitive. Tous ceux qui se soumettront à celui qui vient avec l'aube et aux Aiel, tous ceux-là n'auront rien à craindre. »
Ainsi, c'était ça le sujet de la conversation. Et Gwen aurait dû s'en douter.
« Je ne me soucie pas seulement d'épargner des vies ou de protéger des pays, »
répondit Moiraine. Alors qu'elle passait un index sur un de ses sourcils lustrés de sueur, l'Aes Sedai parvint à conserver toute la dignité d'une reine. Cela dit, son ton était aussi tranchant que celui de Melaine.
« Si vous suivez Rand, ce sera un désastre. Les années de préparation vont enfin porter leurs fruits. Et voilà qu'il veut tout rayer d'un trait de plume.
Les plans de la Tour Blanche ne nous concernent pas, »
dit Amys d'un ton si doux qu'on aurait pu se méprendre sur le sens de sa phrase.
« Les matriarches doivent déterminer ce qui est bon pour les Aiel. » et faire en sorte qu'ils agissent dans leur propre intérêt.
Et Gwen se demanda ce que les chefs de tribu penseraient d'une telle déclaration. Sachant qu'ils se plaignaient souvent de l'interférence des matriarches dans des affaires qui ne les regardaient pas, on pouvait penser qu'ils ne seraient pas surpris. Tous étaient des hommes intelligents à la volonté de faire, et contre les matriarches, et Gwen leur donnait aussi peu de chance qu'au conseil du village, chez elle, face au cercle des femmes. Pour le reste, Moiraine avait parfaitement raison.
« Sirande !»
commença Gwen. Mais Beyr ne la laissa pas continuer.
Nous entendrons plus tard ce que tu as à dire, mon enfant. Tu en sais long sur Randall Thor, et tes connaissances sont précieuses. Mais ça ne te dispense pas de rester à ta place et de parler uniquement quand on t'interroge. Et ne fais pas cette tête, sinon tu auras droit à une infusion d'épines bleues.
Et Gwen eut une moue amère. Le respect pour les Aes Sedai, des égales parmi les égales, ne semblait pas s'étendre aux élèves, même quand elles se faisaient passer pour des sœurs. Prudente, la jeune femme tint sa langue. Sinon, Beyr était tout à fait capable de lui ordonner d'aller se préparer une grande tasse de l'épouvantable breuvage. Atrocement amère, l'épine bleue ne servait à rien, à part soigner l'insubordination, la bouderie, ou tout autre comportement qu'une matriarche pouvait juger irrespectueux. Compatissante, Avienda tapota l'épaule de son amie.
« Vous croyez toutes les trois que ça ne sera pas également une catastrophe pour les Aiel ?»
demanda Moiraine. Dans un bain de vapeur, alors qu'on ruisselait de sueur, rester froide comme une lame pouvait sembler un impossible exploit. Pourtant, Moiraine y parvenait sans l'ombre d'une difficulté.
La guerre des Aiel recommencera. Vous tuerez, vous pillerez et incendierez des villes. Et à la fin, tout le monde s'unira contre vous.
Le cinquième des richesses est notre dû, Aes Sedai,
intervint Melaine.
Nous ne pillons rien.
La jeune matriarche écarta ses cheveux. Même trempé de sueur et de vapeur, il brillait comme de la soie, afin de pouvoir passer le Styra sur la peau sans rides d'une de ses épaules.
Nous ne prenons jamais plus, même aux tueurs d'arbres.
Le regard glacial que Melaine jeta à l'Aes Sedai ne devait rien au hasard. Ici, tout le monde savait que Moiraine était originaire du Caerien.
Les impôts de vos rois et de vos reines sont au moins aussi lourds. Et quand toutes les nations se tourneront ensemble contre vous. Durant la guerre des Aiel, ce fut suffisant pour vous repousser. Ça se reproduira, et chaque camp subira des pertes cruelles. Les Aiel ne craignent pas la mort, Aes Sedai,
dit Amys avec un gentil sourire, comme si elle faisait la leçon à une enfant.
La vie est un songe dont nous devons tous nous réveiller un jour avant de pouvoir rêver de nouveau. De plus, lors de la guerre en question, seuls 4 clans ont traversé le mur du dragon sous les ordres de Janduin. Il y en a déjà 6 ici, et Randall Thor veut rallier les autres à sa cause. La prophétie de Ruidéan annonce qu'il nous brisera.
Intervint Melaine, une lueur furieuse dans ses yeux verts. De l'animosité envers Moiraine, ou la preuve qu'elle n'était pas disposée à subir le sort qu'elle venait d'évoquer.
Quelle importance que ce soit ici ou de l'autre côté du mur du dragon. Rand perdra le soutien de toutes les nations à l'ouest de votre désert.
Insista Moraine. Elle restait impassible, comme d'habitude. Mais quelque chose dans son regard montrait qu'elle était prête à casser des pierres avec les dents.
Et il a besoin de ce soutien.
Il a celui de la nation Aiel.
Souffla Beir de sa voix si frêle. Comme pour renforcer ses propos, elle fit de grands gestes lents avec son Staira.
Les tribus n'ont jamais formé une nation, mais aujourd'hui, il nous unit enfin.
Moraine Sedai,
dit Amis inflexible.
Nous ne vous aiderons pas à le détourner de ce chemin-là.
Si tu veux bien te retirer à présent, Aes Sedai,
fit Beir.
Pour ce soir, nous avons assez débattu du sujet que tu voulais évoquer.
Une formulation n'est plus courtoise pour une fin de non-recevoir cinglante.
Je vais me retirer,
acquiesça Moiraine, redevenue parfaitement sereine. À l'entendre, c'était elle qui voulait partir, pas ses interlocutrices qui la congédiaient. Au fil du temps, elle avait appris à ne même pas sourciller chaque fois que les matriarches soulignaient qu'elle n'était pas sous l'autorité de la Tour Blanche.
De toute façon, j'ai autre chose à faire.
C'était de toute évidence la vérité. D'ailleurs, il n'aurait pas pu en être autrement. Les occupations liées à Rand? Egwene était bien trop maligne pour poser la question. Quand Aes Sedai voulait qu'elle sache quelque chose, elle l'en informait. Sinon, eh bien, Egwene avait droit à quelque esquive tordue, puisque les sœurs ne pouvaient pas mentir. Ou un « ça ne te regarde pas » qui la remettait immédiatement à sa place. Bien placée pour savoir que la jeune femme n'était pas une Aes Sedai de l'âge avert, Moiraine jouait le jeu en public pour le bien de leur cause. En privé, elle ne s'en laissait pas compter. Dès que Aes Sedai fut sortie, faisant entrer de l'air glacial sous la tente, Amis se tourna vers Avienda.
Sers-nous donc de l'infusion,
ordonna-t-elle. La jeune Aiel sursauta, ouvrit deux fois la bouche sans parvenir à émettre un son, puis bredouilla.
Il faut d'abord que je la prépare.
Sur ces mots, elle sortit de la tente à quatre pattes. Bien entendu, le second courant d'air glacé dissipa la vapeur. Les matriarches échangèrent des regards stupéfaits. Avienda, être ainsi prise en défaut? Egwene elle-même n'en revenait pas. Même si c'était rarement de bon cœur, son amie s'acquittait de toutes les corvées avec une remarquable efficacité. Pour qu'elle ait oublié de préparer l'infusion, quelque chose devait la troubler terriblement. Les matriarches voulaient leur boisson chaque soir.
« Plus de vapeur, ma fille !»
dit Mélaine. Avienda étant sortie, Egwene comprit que c'était à elle que s'adressait la matriarche. Après avoir arrosé les pierres d'eau, elle canalisa le pouvoir pour les réchauffer, ainsi que le chaudron, jusqu'à ce que l'ensemble diffuse autant de chaleur qu'un four. Si les Aiel avaient l'habitude de passer de la canicule à un froid hivernal en un clin d'œil, Egwene ne s'y faisait toujours pas. Voyant des nuages de vapeur remplir la tente, Amis s'approuva du chef. Comme Mélaine, elle distinguait l'aura du Saïdar qui enveloppait la jeune adepte. Un phénomène qu'Egwene ne pouvait pas voir sur elle-même. Mélaine ne réagit pas, continuant à jouer du Staira sur sa peau de pêche. Se séparant de la source authentique, Egwene se rassit et se pencha pour souffler à l'oreille de Beir.
« Avienda a-t-elle fait quelque chose de très mal ?»
Egwene ignorait ce que son amie penserait de sa façon de procéder. Mais elle ne voyait aucune raison de se montrer trop directe, même en son absence. Beir ne s'embarrassa pas de tant de scrupules.
« Tu veux parler des zébrures ?»
demanda-t-elle, comme si elle discutait de la pluie et du beau temps avec une amie.
« Elle est venue me dire qu'elle a menti deux fois aujourd'hui, sans préciser à qui et sur quel sujet. Tant qu'elle ne ment pas à une matriarche, ça la regarde, bien entendu. » Mais elle a proclamé qu'un taux s'imposait pour laver son honneur.
C'est elle qui vous a demandé de...
Egwene ne parvint pas à finir sa phrase. Beir acquiesça comme s'il n'y avait rien d'extraordinaire dans tout ça.
J'ai ajouté quelques coups pour la punir de m'avoir dérangé avec ça. Si le G était impliqué, ça n'était pas par rapport à moi. D'ailleurs, je parie que ces mensonges sont des peccadilles dont seule une farde d'Arae Ismaï pourrait faire une histoire. Les promises, et même les anciennes promises, sont parfois aussi assommantes que les hommes.
Amis eut un regard courroucé dont la signification ne pouvait échapper à personne, même derrière un rideau de vapeur. Comme Avienda, elle avait manié la lance avant d'y renoncer pour devenir une matriarche. Egwene, pour sa part, n'avait jamais croisé un Aiel qui ne soit pas assommant dès qu'il était question du Gieto. Mais là, ça dépassait tout. Décidément, ces gens étaient des fous furieux. Mais Beir semblait être déjà passé à autre chose.
« Il y a plus d'égarés dans la tierce terre que j'en ai jamais vu, »
dit-elle à la cantonade. C'était le surnom que les Aiel donnaient aux Tuatahan, les Ingari de l'autre côté du mur du dragon.
« Ils fuient les terres mouillées, effrayés par ce qui s'y passe. »
lâcha Mélaine avec un mépris évident.
« Il paraît,
intervint Amis.
Que certains des nôtres qui ont fui après la sidération sont allés voir les égarés, leur demandant de voyager avec eux.
Un long silence s'ensuivit. Désormais, tous les Aiel savaient que les Zingari avaient la même ascendance qu'eux, les deux branches se séparant avant que les guerriers traversent la colonne vertébrale du monde pour s'exiler dans le désert. Mais cette révélation n'avait en rien amélioré leur opinion sur les Tuatahan. Au contraire même.
« Il apporte le changement !»
siffla Melaine, nul n'ayant besoin qu'elle précise de qui elle parlait.
« Je croyais que vous aviez accepté ces bouleversements !»
dit Egwene avec une sincère compassion. Voir sa vie soudain sans dessus-dessous n'avait rien d'agréable. Elle n'en doutait pas un instant.
« Accepter ?»
répéta Beyr, comme si ce mot lui laissait un goût amer dans la bouche.
« Non, nous les supportons du mieux que nous pouvons, c'est tout. Ils transforment tout, »
fit Amis pensive.
« Gwydion, les égarés, la sidération, avoir dit ce qui aurait à jamais dû être tu. »
Comme tous les Aiel, les matriarches avaient encore du mal à évoquer tous ces sujets.
« Les promises le couvrent comme si elles lui devaient plus de loyauté qu'à leur tribu. »
ajouta Beyr.
« Pour la première fois, elles ont autorisé un homme à entrer sous leur toit. »
Amis parut vouloir dire quelque chose, mais elle se ravisa. Apparemment, elle tenait à garder ce qu'elle savait des rouages internes de l'ordre pour les femmes qui en faisaient partie ou qui en provenaient.
« Les chefs nous écoutent plus comme avant !»
se plaignit Melaine.
« N'étant pas devenu complètement fou, ils nous demandent encore notre avis, mais Baël ne me confie plus la teneur de ses conversations avec Andaltor. Il me dit de demander au Karakarn, qui me répond d'interroger Baël. Contre celui qui vient avec l'aube, je ne peux rien faire, mais Baël, il a toujours été têtu et colérique. Et là, il n'a plus de limite. Parfois, je voudrais lui fracasser le crâne avec un bâton. »
Amis et Beyr gloussèrent comme si c'était une excellente plaisanterie. Ou avait-elle seulement envie de rire pour oublier que tout changeait autour d'elle ?«
Avec un homme pareil, »
fit Beyr.
« On n'a que trois solutions. Rester loin de lui, le tuer ou l'épouser. »
Melaine se raidit et s'empourpra sous son teint hâlé. Un moment, Egwene crut qu'elle allait se fendre d'une tirade encore plus enflammée que ses joues. Mais un courant d'air froid annonça le retour d'Avienda, les bras lestés d'un plateau d'argent où reposait une bouilloire en émail jaune, des tasses de porcelaine issues de l'artisanat du peuple de la mer et un pot de miel. Frissonnant pendant qu'elle faisait le service, sans doute parce qu'elle n'avait pas pris la peine de se couvrir dehors, Avienda fit ensuite passer les tasses et le pot de miel. Bien entendu, pour les servir, Egwene et elle, l'ancienne guerrière attendit qu'Amis lui donne l'autorisation.
« Plus de vapeur !»
s'écria Melaine, ses ardeurs apparemment calmées par l'air glacial. Avienda se précipita vers le chaudron et la gourde d'eau, probablement pour se faire pardonner sa bévue avec l'infusion.
« Egwene ?»
demanda Amis en sirotant son breuvage.
« Comment réagirait Rand si Avienda demandait à dormir dans sa chambre ?»
L'ancienne promise se pétrifia.
« Dans ça ?»
s'étrangla Egwene.
« Vous ne pouvez pas demander à Avienda de faire ça ? C'est impossible !»«
Petite idiote !»
marmonna Beyr.
« Nous n'exigeons pas qu'elle partage sa couche. Mais interprétera-t-il cette demande comme toi ? Et répondra-t-il par l'affirmative ? Les hommes sont de bien étranges créatures dans le meilleur des cas, et celui-là n'a pas grandi parmi nous. Donc il nous paraît encore plus bizarre.
Il ne penserait sûrement pas à ce que vous insinuez,
dit très vite Egwene.
Enfin, je suppose. Mais ce n'est pas convenable. Tout simplement, je vous implore de ne pas exiger ça de moi,
intervint Avienda, faisant montre d'une humilité dont Egwene ne l'aurait pas cru capable. Versant de l'eau avec de grands gestes saccadés, l'ancienne promise produisait d'impressionnants nuages de vapeur.
Ces derniers jours, j'ai beaucoup appris, parce que je n'étais pas obligé de rester avec lui. Et depuis que Moiraine Sedai et Egwene m'aident à canaliser le pouvoir, grâce à vous, parce que vous les y avez autorisés, je fais des progrès plus rapides encore. Elles ne sont pas de meilleures formatrices que vous, n'allez pas vous méprendre. Mais j'ai une telle soif d'apprendre.
Tu continueras à travailler,
dit Melaine.
Personne ne te demande de rester tout le temps avec lui. Si tu t'appliques toujours autant, tes cours ne seront pas affectés. Après tout, tu n'étudies pas en dormant. « Je ne pourrai pas, »
marmonna Avienda entre ses dents. Elle leva les yeux et ajouta d'un ton plus ferme.
« Je ne veux pas. Pas question que je sois là lorsqu'il invitera de nouveau cette catin d'Isandre dans sa couche. »
Et Egwene écarquilla les yeux de stupeur.
« Isandre ?»
Elle connaissait et désapprouvait de tout son cœur le châtiment que les promises avaient infligé à la jeune femme. Mais là...
« Tu ne veux pas dire que...
Silence !»
cria Beyr, ses yeux bleus froids comme la mort.
« Toutes les deux. Vous êtes très jeunes. Et même les promises de la lance devraient savoir que les hommes peuvent se comporter comme des idiots, en particulier quand ils ne sont pas liés à une femme susceptible de les guider. Avienda,
dit Amis.
Je suis contente de voir que tu ne contrôles plus tes émotions si strictement. Sur ce plan, les promesses sont aussi ridicules que les hommes. Je m'en souviens, et ça me fait toujours monter le rouge au front. Laisser s'exprimer ses émotions peut obscurcir à un moment le bon sens d'une personne. Mais les étouffer l'occulte à tout jamais. Prends simplement garde à ne pas t'épancher trop souvent, ou au mauvais moment.
En appui sur les mains, Mélaine se pencha en avant, jusqu'à ce que la sueur qui ruisselait sur son visage semble devoir tomber dans le chaudron.
« Tu sais quel sera ton destin, Avienda. Tu deviendras une matriarche très puissante et d'une autorité incontestée. Mais il y a plus que cela. Tu as déjà en toi une grande force. Elle s'est révélée au moment de ta première épreuve. Et elle s'affirmera au cours de cette mission. Mon honneur !»
commença Avienda. Elle ne parvint pas à continuer, serrant contre elle la gourde d'eau comme si elle était justement cet honneur qu'elle entendait protéger.
« La trame ne se soucie pas du Gieto. »
dit Beir avec peut-être, mais peut-être seulement, une once de compassion.
« Ce qui compte, c'est ce qui doit être et qui sera. Les hommes et les promises luttent contre le destin, même quand il est clair que la trame se tisse inexorablement en dépit de leurs efforts. Si tu veux avoir de l'influence sur ta propre vie, il faut d'abord cesser de combattre la trame. Sinon, elle te forcera à accomplir ses volontés, et tu souffriras au lieu de trouver une forme d'harmonie et de bonheur. »
Des propos qui faisaient écho à ce qu'on lui avait enseigné sur le pouvoir de l'unique, songea Egwene. Pour contrôler le Saïdar, il fallait d'abord s'abandonner à lui. En cas de résistance, on risquait d'être submergé et finalement carbonisé. En optant pour une forme intelligente de soumission, on devenait capable de guider sans violence cette incroyable force. Certes, mais ça n'expliquait pas pourquoi les matriarches voulaient qu'Avienda fasse une chose pareille. Egwene posa la question à voix haute, concluant par un « ce n'est pas convenable, plein de convictions ». Sans Denis répondre, Amis demanda.
Randall Thor serait-il d'accord? Nous ne pouvons pas le contraindre.
Beir et Mélaine dévisagèrent Egwene avec au moins autant d'intensité qu'Amis. Aucune des matriarches ne répondrait à sa question. Faire parler un rocher était plus facile qu'arracher un mot à une de ses femmes, quand elles avaient décidé de se taire. Résignée, Avienda contemplait mornement ses orteils. D'expérience, elle savait que les matriarches obtenaient toujours ce qu'elles voulaient.
Je ne sais pas s'il accepterait.
Soupira Egwene.
Je ne le connais plus aussi bien qu'à une époque.
Elle déplorait cet éloignement, mais tant de choses s'étaient passées, sans même évoquer le moment où elle avait compris qu'elle aimait désormais Rand comme un frère et rien de plus. Bien sûr, il avait changé, mais les deux formations de la jeune femme, à la Tour Blanche puis auprès des Aiel, l'avaient également métamorphosée.
Mais c'est possible, si vous lui fournissez de bonnes justifications. Je crois qu'il apprécie Avienda.
Les yeux de nouveau baissés, la jeune Aiel soupira à Pierre Fendre.
Une bonne raison,
ricana Beir.
Quand j'étais jeune, un homme se serait réjoui qu'une jolie femme lui montre tant d'intérêt. Il serait même allé cueillir des fleurs pour qu'elle puisse tisser sa couronne nuptiale.
Avienda sursauta, puis regarda les matriarches, avec dans les yeux quelque chose de son ancienne fierté de promise.
Mais nous trouverons une raison acceptable même pour un garçon élevé dans les terres mouillées,
continua Beir.
Il reste pas mal de nuits avant ton rendez-vous dans le monde des rêves,
dit soudain Amis à Egwene.
Avec Ninevé, cette fois. Celle-là,
fit Beir.
Si elle n'était pas si têtue, elle pourrait apprendre beaucoup de choses. Donc,
dit Mélaine,
tes nuits sont libres jusque-là, sauf si tu es entré sans nous dans Telaran Riod.
Egwene devina vers où s'orientait la conversation.
Bien sûr que non,
mentit-elle. Cette transgression était si vénielle. Si elle était allée plus loin, les matriarches s'en seraient sans nul doute aperçus.
« As-tu réussi à trouver les rêves de Ninevé ou d'Elaine ?»
demanda Amis, comme si elle bavardait de tout et de rien.
« Non, »
répondit Egwene. Localiser les songes de quelqu'un était bien plus difficile que d'entrer dans le monde des rêves, surtout quand on était très éloigné du rêveur en question. Plus on était géographiquement proche, et mieux on se connaissait, plus ça devenait facile. Pour l'heure, les matriarches exigeaient encore que la jeune femme ne s'aventure pas sans l'une d'elles dans Telaran Riod. Mais le rêve d'une autre personne pouvait se révéler tout aussi dangereux, dans un autre genre. Dans le monde des rêves, Egwene contrôlait presque totalement son environnement et sa propre personne. Sauf quand une des matriarches décidait de prendre les commandes. Sa maîtrise augmentait régulièrement, mais elle était encore loin de ses formatrices et de leur expérience. Dans le rêve de quelqu'un, en revanche, on devenait une part de la fantasmagorie. Et il fallait lutter pied à pied pour ne pas se comporter comme le rêveur l'entendait. Ne pas se plier à sa volonté n'était pas aisé, et il arrivait qu'on échoue. Quand elles épiaient les rêves de Rand, les matriarches prenaient toujours garde à ne pas y entrer totalement. Malgré le danger, elles insistaient pour qu'Egwene s'exerce. si elle devait lui apprendre à marcher dans les rêves, pas question de garder des zones d'ombre dans ses connaissances. Et Gwen n'était pas opposée à ces expériences. Mais quand elle avait essayé, d'abord avec les songes des matriarches, puis avec ceux de Rouark, le coup avait été rude. Bayre, Amys et Melaine ayant un contrôle quasi parfait de leurs songes, ce qui lui arrivait, pour lui apprendre à flairer le danger, disait-elle, était en toutes circonstances voulu par ses formatrices et même prémédité. Avec Rouark, en revanche, quel choc ça avait été de découvrir qu'il la voyait comme une gamine, à l'instar de ses plus jeunes filles. Son contrôle ayant vacillé à un moment crucial, Egwene n'avait été ensuite guère plus qu'une gamine, effectivement. Depuis, elle ne pouvait plus voir cet homme sans songer qu'elle avait reçu une poupée pour la récompenser de travailler si dur. Et ce cadeau, en plus de tout, lui avait fait aussi plaisir que l'approbation du chef Ayel. Amys avait dû intervenir, l'arrachant au plaisir de s'amuser avec son jouet. Que la matriarche ait assisté à ça était déjà assez grave. Hélas, elle soupçonnait Rouark d'en avoir gardé un vague souvenir.
« Tu dois persévérer, »
dit Amys.
« Malgré la distance, tu es assez forte pour les atteindre. Et découvrir comment elle te voit ne te fera aucun mal. »
Et Gwen n'aurait pas signé dès demain cette affirmation. Elaine était son amie, d'accord. Mais Ninevée avait été la sage-dame de Champ des Mondes durant la plus grande partie de son enfance. Ses rêves la concernant risquaient d'être encore plus traumatisants que ceux de Rouark.
« Ce soir, je dormirai loin de nos tentes, »
continua Amys.
« Mais pas très loin. Tu devrais pouvoir me trouver facilement si tu essaies. Si je ne rêve pas de toi, nous en parlerons demain matin. »
Et Gwen réprima un sourire. Amys l'avait guidée jusqu'au rêve de Rouark. Bien sûr, la matriarche n'y était restée qu'un instant, juste ce qu'il fallait pour souligner que le chef Ayel la voyait toujours sous les traits de la jeune femme qu'il avait épousée. Mais c'était quand même rassurant. Et lors de ses tentatives précédentes, les matriarches avaient toujours été sous la même tente qu'elle.
« Bien, »
fit Bayre en se frottant les mains.
« Nous avons entendu tout ce qui méritait de l'être. Vous pouvez toutes rester si ça vous tente, mais moi je me sens assez propre pour aller me coucher. Vous savez, je ne suis pas aussi jeune que vous. »
Jeune ou non, Bayre pouvait encore courir plus longtemps que toutes ses compagnes et les porter sur la fin du chemin. Alors que la matriarche aux cheveux blancs se levait, Melaine prit la parole. Bizarrement d'un ton hésitant.
« J'ai besoin... Bayre, je dois te demander ton aide. Et à toi aussi, Amys. »
Bayre se rassit et, comme Amys, dévisagea Melaine avec une profonde perplexité.
« Est-ce que... »
La phrase suivante sortit à la vitesse d'un cheval au galop.
« Eh bien, voudriez-vous parler à Dorinda pour moi ?»
Amys eut un grand sourire, et Bayre éclata de rire. Avienda sembla comprendre de quoi il s'agissait et ne cacha pas sa surprise. Et Gwen, en revanche, ne saisit pas ce que cela avait de drôle ou d'étonnant. Mais elle ne tarda pas à être éclairée.
« Ah ! Toi qui disais toujours ne pas avoir besoin d'un mari ?»
s'esclaffa Bayre.
« Et surtout ne pas en vouloir. Moi, j'en ai enterré trois, et je n'aurai rien contre un quatrième. Les hommes sont très utiles quand on a froid la nuit. Une femme a le droit de changer d'avis, non ?»
demanda Melaine, le ton ferme mais les joues roses.
« Je ne peux ni me tenir loin de Baël, ni le tuer. Si Dorinda veut bien de moi comme sœur épouse, je confectionnerai ma couronne nuptiale pour aller la poser aux pieds de Baël. Et s'il la piétine au lieu de la ramasser ?»
demanda Bayre. Amys s'en tapa sur les cuisses de rire. Et Gwen songea que ça ne risquait guère d'arriver. Si elle avait bien compris les coutumes d'Ayel, il suffirait que Dorinda accepte Melaine comme sœur épouse, car Baël n'aurait pas vraiment son mot à dire. Qu'un homme puisse avoir deux épouses ne choquait plus vraiment la jeune femme.
À culture différente, coutumes différentes.
N'ayant jamais osé poser la question, Egwen ne pouvait pas être affirmative, mais il semblait vraisemblable qu'il existe des Ayel dotés de deux époux. Un peuple très étrange tout de même.
Je vous demande d'agir comme mes premières sœurs, voilà tout. Et je crois que Dorinda m'aime bien.
Dès que Melaine eut prononcé ces quelques mots, l'hilarité de ses deux compagnes se transforma subtilement. Toujours souriantes, elles étreignirent leur amie, lui assurant qu'elles étaient ravies pour elle et que son union avec Baël serait un succès. À l'évidence, Bayre et Amys ne doutaient pas un instant que Dorinda donnerait son aval. Bras dessus, bras dessous, les trois matriarches sortirent en gloussant comme des gamines. Mais non sans avoir ordonné à Egwene et à Avienda de remettre de l'ordre sous la tente.
« Egwene ?»
demanda l'ancienne promise.
« Une femme de ton pays accepterait-elle d'avoir une sœur épouse ?»
Avec un bâton, elle retira le cache qui obstruait le trou d'évacuation de la fumée. Le froid revenant à la charge, Egwene regretta que son amie n'ait pas gardé cette tâche pour la fin.
« Je n'en sais trop rien. »
dit-elle en ramassant les tasses et le pot de miel. Elle les posa sur le plateau, puis ajouta les Staira.
« Mais je ne crois pas. Une amie très proche, peut-être.
une précision purement diplomatique. Dénigrer les coutumes des Aiel n'aurait pas été une idée très judicieuse. Avienda marmonna entre ses dents, puis elle entreprit de remonter les flancs latéraux de la tente. Ses dents faisant autant de bruit que les tasses qui s'entrechoquaient sur le plateau, Egwene déboula dehors, où les matriarches étaient en train de s'habiller sans hâte, comme si elles étaient dans une chambre douillette par une nuit d'été. Une Gaïshine prit le plateau à Egwene, qui se mit aussitôt à la recherche de sa cape et de ses chaussures. Hélas, elle ne trouva rien.
« J'ai fait porter tes affaires sous ta tente, »
dit Beyr en finissant de lasser son chemisier.
« Pour le moment, tu n'en as pas besoin. »
Egwene en eut l'estomac tout retourné. Sautant sur place, elle battit des bras dans le vain espoir de se réchauffer. Par bonheur, les matriarches ne lui demandèrent pas d'arrêter. Soudain, elle s'avisa que la silhouette en robe blanche qui s'éloignait avec le plateau était trop grande, même pour une aïelle. Serrant les dents pour les empêcher de claquer, elle foudroya du regard les matriarches, qui semblaient se ficher comme d'une guigne qu'elle tomberait de morte de froid. Les aïelles se moquaient aussi qu'un homme les ait vus dans le plus simple appareil, puisqu'il s'agissait d'un Gaïshine. Pour Egwene, c'était une autre paire de manches. Avienda rejoignit le petit groupe. Étonnée de voir son amie sautiller sur place, elle n'esquissa pas le moindre geste pour retrouver ses propres affaires. À première vue, le froid lui faisait aussi peu d'effet qu'au matriarche.
« Tiens, récapitulons, »
dit Beyr en ajustant son châle sur ses épaules.
« Avienda, non contente d'être têtue comme un homme, tu as oublié une tâche toute simple dont tu t'acquittes pourtant souvent. Quant à toi, Egwene, tout aussi têtue que ton amie, tu crois pouvoir traîner sous ta tente alors que nous t'avons convoquée. Avec un peu de chance, faire 50 fois le tour du camp à la course vous rendra plus docile, plus clairvoyante, et capable de réagir à la seconde quand on vous donne des ordres. Filez, je ne veux plus vous voir. »
Slalomant sans peine entre les tentes pour t'ennoyer dans l'obscurité, Avienda partit au trot vers le périmètre du camp. Après une brève hésitation, Egwene la suivit. Son amie ralentissant le rythme, elle put la rattraper assez vite. Tandis que l'air glacé lui gelait jusqu'à la moelle des os, la roche froide semblant vouloir se coller à ses orteils, l'ancienne promise, elle, courait sans effort apparent. Alors qu'elles atteignaient les dernières tentes, puis obliquant vers le sud, Avienda lança.
« Tu sais pourquoi j'étudie avec tant d'acharnement ?»
Ni le froid ni la course ne parvenaient à altérer sa voix.
« Non, pourquoi ? Parce que Beyr et les autres te montrent toujours un exemple. Tu apprends vite, disent-elles. Et il n'y a jamais besoin de t'expliquer deux fois les choses. Selon elles, je devrais te ressembler. »
Avienda coula un regard de biais à son amie. Puis elle eut un petit rire auquel Egwene trouva la force de faire écho.
C'est une partie de la réponse. Les choses que j'apprends.
Avienda secoua la tête, émerveillée.
Le pouvoir. Je ne m'étais jamais sentie si vivante. Je capte le moindre parfum et le plus infime courant d'air. Tu sais qu'il est dangereux de s'enivrer de pouvoir,
fit Egwene, un peu moins glacée depuis qu'elle courait.
Je te l'ai déjà dit. Et les matriarches t'ont averti aussi. Tu me crois assez idiote pour me transpercer le pied avec ma propre lance ?
Un moment, les deux amis coururent en silence.
Rand a-t-il vraiment...
commença enfin Egwene. Si trouver les mots n'était pas facile, ça n'avait rien à voir avec le froid. À vrai dire, elle commençait à transpirer.
Isandre, je veux dire.
Pas moyen d'être plus explicite que ça.
Non, je ne pense pas.
Finit par répondre Avienda, bizarrement tendue.
Mais s'il ne s'intéressait pas à elle, pourquoi risquerait-elle ainsi le fouet ? Bien sûr, c'est une de ces petites dindes des terres mouillées qui attendent que les hommes viennent à elle. Rand a essayé de le cacher, mais il la regardait. Et il aimait ce qu'il voyait.
Egwene se demanda si son amie la considérait aussi comme une petite dinde des terres mouillées. Sans doute pas, sinon elle n'aurait pas été si intime. Mais en matière de tact, Avienda n'était pas un exemple à suivre. Apprendre qu'Egwene s'était sentie visée l'aurait sûrement stupéfié.
Avec la manière dont les promises l'ont habillée,
reconnut Egwene à contre-cœur.
Quel homme ne la regarderait pas ?
Se souvenant qu'elle était dehors sans vêtements, la jeune femme regarda nerveusement autour d'elle. À première vue, il n'y avait personne, les matriarches ayant depuis longtemps regagné leur tente, bien au chaud sous des couvertures. Egwene transpirait, certes, mais la sueur semblait gelée sur sa peau.
« Il appartient à Elaine !»
s'écria Avienda.
« Je connais mal vos coutumes, je l'avoue, mais les nôtres sont en tout cas très différentes. Rand n'est pas fiancé à Elaine. Pourquoi est-ce que je le défends ? C'est lui qui mériterait le fouet. Elaine et toi êtes presque sœurs, comme nous deux. »
objecta Avienda.
« N'est-ce pas toi qui m'as demandé de garder un œil sur lui ? Au bénéfice d'Elaine ? Tu ne veux pas qu'il soit à elle ? Bien sûr que si, mais seulement s'il est d'accord. »
Ce n'était pas la vérité. Elaine était amoureuse du dragon réincarné, un grand défi. Et Egwene lui souhaitait tout le bonheur possible dans ces circonstances difficiles. Pour l'aider, elle était prête à bien des choses, à part lui livrer Rand pieds et poings liés. et encore. Mais le reconnaître n'était pas aisé. Dans ces domaines, les Aïels étaient beaucoup plus directes que les femmes des autres pays.
« Sinon, ce ne serait pas bien. Il lui appartient !»
répéta Avienda. Et Gwen eut un soupir accablé. L'Aïel refusait de comprendre les coutumes des autres. Par exemple, elle s'indignait toujours qu'Elaine ne puisse pas demander rang en mariage, parce que c'était à l'homme, de l'autre côté du mur du dragon, de faire le premier pas.
« Je suis sûr que les matriarches reviendront à la raison. Elle ne peut pas t'obliger à dormir dans la chambre d'un homme. »
Avienda ne cacha pas sa surprise. Un moment, elle en perdit la fluidité de sa course. Du coup, elle se tordit le pied sur le sol inégal et lâcha une bordée de jurons qui aurait sans doute élargi le champ lexical des conducteurs de chariots de Cadéré et incité Beyr à la condamner à boire de l'épine bleue.
« Je ne comprends pas pourquoi ça te choque tant !»
dit Laiel quand elle eut fini ses éructations.
« Durant des raids, il m'est plus d'une fois arrivé de dormir près d'un homme, voire sous la même couverture quand il faisait très froid. Ça te dérange que je dorme à 10 pas de ronde ? Un résultat de tes coutumes ? J'ai remarqué que tu ne prenais pas de bain de vapeur avec les hommes. Tu n'as pas confiance en Randaltor ? Ou est-ce de moi que tu doutes ? Bien sûr que non. Pareil pour lui. C'est juste que... »
Et Gwen hésita, ne sachant comment continuer. En ce qui concernait la notion de propriété ou de fidélité, les Aïels étaient d'une certaine façon bien plus strictes que les autres peuples. En même temps, les femmes du cercle, à Chandemonde, se seraient évanouies en entendant certaines choses, à moins qu'elles aient décidé de s'armer d'un gros bâton à toute fin utile.
« Avienda, si ton honneur est impliqué d'une façon ou d'une autre... »
Un sujet glissant.
« Si tu en parles au matriarche, elles ne t'obligeront pas à agir contre ton honneur. Il n'y a rien à dire. Je sais que je ne comprends pas le Gieto, mais... »
Avienda éclata de rire.
« Tu prétends ne pas comprendre, Aes Sedai. Pourtant, tu vis selon les préceptes du Gieto. »
Et Gwen regrettait vraiment de ne pas avoir révélé la vérité à Avienda sur son statut. La prenant pour une sœur, son amie avait eu du mal à l'appeler par son prénom, et il lui arrivait encore de se tromper. Mais pour qu'un mensonge tienne, il fallait que tout le monde y croie.
« Tu as une Aes Sedai assez puissante dans le pouvoir pour dominer Amis et Melaine réunis. Pourtant, tu es prête à leur obéir. Quand elle te l'ordonne, tu récures des chaudrons ou tu fais le tour du camp en pleine nuit. Même si tu ne connais pas le Gieto, tu respectes ses principes. »
En réalité, ça n'avait rien à voir. Si Egwen obéissait en serrant les poings, c'était pour apprendre à marcher dans les rêves. Acquérir de nouvelles connaissances était sa raison de vivre. Imaginer qu'elle puisse se plier à cet absurde Gieto était un non-sens. Elle faisait simplement ce qu'elle avait à faire, et uniquement quand il n'y avait pas d'autre choix.
« À tour de fait !»
dit Egwen, quand elle s'avisa que son amie et elle étaient revenues à leur point de départ. À part Avienda, personne n'aurait rien vu si elle avait abandonné pour rentrer sous sa tente. Et bien entendu, son ami ne l'aurait pas dénoncé. Pourtant, il ne lui vint même pas à l'esprit de s'arrêter avant d'avoir bouclé le 50e tour.